Bienvenue. Vous entrez dans la zone. Ta zone de confort, à ta zone de génie.
Quand tu laisses place à ta créativité, il y a mille manières d'être créatif.
J'écris, je lis.
Une porte ouverte
sur un monde enchanté.
Tu lis quoi, toi ?
Ce livre m'a transportée.
Tu lis quoi, toi ?
Quand elle écrit, c'est beau, quoi.
J'ai des piles à lire partout.
Des petits tas dans ma chambre,
des petits tas dans
ma bibliothèque, c'est...
Lire, c'est vivre en pleine lumière.
Tu lis quoi, toi ?
Je contemple, j'écris, je lis.
Et tu vois, quand tu oublies que t'es en train de lire des mots, ben voilà, c'est ça que je cherche quand j'ouvre un livre, finalement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club de la Zone, le book club pour les créatifs qui aiment lire et raconter des histoires. Vous le savez peut-être, car j'en ai parlé quelques fois sur Instagram, ma pile à lire ne fait que de s'agrandir. Et elle grandit beaucoup plus vite que je ne lis. Soit parce que devant un choix trop important, je n'arrive pas à en faire, soit parce que je n'ai pas du tout envie de lire, ou alors parce que je ne trouve tout simplement pas le temps. Et je sais que je devrais en consommer moins, mais ça fait partie de ces petits défauts qu'on essaie de changer avec le temps. Bref, ma pile à lire grossit, ça m'angoisse, alors je procrastine, et donc ça m'angoisse, et résultat, j'en arrive à une véritable panne de lecture. Ce paradoxe assez bizarre où tu as envie de lire et en même temps rien ne te fait envie. Dans ces moments-là, je préfère picorer des récits, par-ci par-là, et me laisser inspirer par ce que je lis, jusqu'à ce que l'envie de plonger dans un roman fleuve ou un long essai revienne. PS, ça marche aussi quand on n'a jamais le temps de lire. Tout de suite, tout ce que je lis quand je n'arrive plus à lire. Quand j'étais au collège, j'ai un temps voulu être rédactrice en chef d'un magazine. J'adorais l'idée d'agencer des images, des couleurs et du texte pour en faire quelque chose de beau, de divertissant et d'informatif. Je voulais parler du monde, de beauté, d'art et de littérature. Je me souviens même en avoir confectionné un à l'aide de crayons de couleur, de feuilles blanches et quelques agrafes. Aujourd'hui, j'ai grandi. Mais j'aime toujours autant tourner les pages des magazines, quand je suis en voyage ou que je ne trouve ni le courage ni l'envie d'entamer un roman, quand j'ai envie de quelque chose de plus léger et d'inspirant. Et il y en a deux en particulier qui reviennent souvent. Le premier, c'est Lire. Pas de suspense avec le titre, c'est un magazine littéraire. Donc il aborde mille et un sujets en rapport avec la lecture, l'écriture et la littérature. Des portraits d'auteurs et autrices passés ou actuels, des nouveaux romans, l'histoire de la littérature, ou même des thèmes particuliers comme le voyage, les femmes et la bande dessinée, la graphologie d'écrivains célèbres, la santé mentale, le livre audio, les années folles ou encore différents genres littéraires. Ça parle aussi d'économie du livre, de conseils d'écriture et même de conseils pour publier son propre roman. Tout y passe. Comme je suis passionnée par le milieu du livre en général, j'ai même repris des études pour ça, j'aime me plonger dans cet univers de temps en temps et lire quelques articles ici et là, entre deux occupations, pour me détendre le soir ou pour doucement commencer un dimanche matin. Et puis, c'est bourré de recommandations pour ma pile à lire. Donc pas sûr que ce soit une bonne idée finalement. Le deuxième magazine est une évidence. C'est Flow. F-L-O-W. Le magazine de la créativité et de l'épanouissement de soi. Je le lis rarement de A à Z, mais il nourrit en partie ma créativité. On y retrouve des interviews d'artistes, des portraits de créatives et d'artisans, des recommandations de lecture, mais aussi une sélection d'objets, d'activités culturelles ou en plein air, faites par les journalistes de la rédaction. D'ailleurs, ils testent eux-mêmes une partie des activités qu'ils recommandent. Il y a aussi des articles bien documentés sur le bien-être psychologique, qui tentent d'ailleurs de ne pas verser dans le développement personnel simpliste et ultra-marketé que l'on voit partout. Il y a aussi de très courtes analyses d'œuvres visuelles, comme des peintures ou des photographies. Et j'aime beaucoup les analyses. Je pourrais écouter des heures une experte me parler d'un tableau, d'un roman ou encore un film. Ah oui, et il y a même des activités DIY à refaire chez soi. Il y en a quelques-unes que je garde pour cet été, et ça me rappelle les magazines auxquels ma mère m'abonnait quand j'étais plus jeune. Donc vous avez compris, c'est le magazine parfait pour toute créative. Et dernier petit détail, mais pas des moindres, il est juste beau. Ce magazine est beau à regarder, beau à contempler. Les graphismes, les collages, les couleurs, les dessins. Parfois je l'ouvre juste pour le regarder, m'en inspirer et découvrir de nouveaux illustrateurs et illustratrices. Et qui sait, la zone pourrait devenir un trimestriel un jour. J'ai mis du temps avant de redonner une chance à la poésie. Je n'ai lu que ce qui était obligatoire à l'école et je n'en ai pas grand souvenir, à part les fameuses fables de La Fontaine, d'ailleurs très largement inspirées de nos griots d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est un sujet pour une autre fois. Tout ça pour dire que je n'étais pas très portée sur la poésie, mais ma sœur m'en a donné l'envie lorsqu'elle m'a recommandé les derniers poèmes d'amour de Paul Éluard, qui contient l'un de ses poèmes préférés. Alors je n'ai toujours pas mis la main sur ce recueil, mais j'en ai ouvert un autre, que l'une des invitées de la zone, Laurane Safou, m'avait recommandé à l'époque. Il s'agit de Salt, de Naïra Wahid, une poétesse afro-américaine qui a d'abord fait connaître ses textes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et qui a auto-édité ses deux premiers recueils, dont Salt. Ce livre, je l'ai parcouru ici et là. Et il m'a réconcilié, en fait, avec la prose poétique. Parce qu'avant, la poésie, je l'appréciais seulement en rime, en rythme et en son. Avec Salt, j'ai appris à l'apprécier pour les mots et les images qu'il renvoie à mes imaginaires. Salt, c'est tout petit. Ça se savoure, dans la beauté des phrases et les mille et une vérités que l'on peut y trouver, les mille et une interprétations que l'on peut en faire. Et qui peuvent nous toucher de mille et une manières, en fonction de notre vécu ou de comment l'on se sent au moment où on les lit. Naïra Wahid évoque de nombreux sujets dans ses textes. Elle parle de nos mères, d'être mère, d'immigration, d'amour, d'amitié ou de guérison. Elle parle de nature et des émotions qui nous traversent toutes. Et je pense que c'est ces poèmes en particulier qui m'ont le plus touchée. Parce qu'elle écrit avec justesse et simplicité des sentiments universels. Se sentir amoureuse ou délaissée. Se sentir laide ou puissante. Se sentir perdue ou ancrée. Et quand une artiste exprime si joliment et si bien ce que je ressens, je me sens vue. Je me sens un peu moins seule. Bercée et enlacée avec douceur le temps d'un poème. Alors, après avoir lu Salt, j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé à ma sœur de m'envoyer une anthologie que je lui avais offerte il y a quelques années. Pour être honnête, je n'ai pas encore eu le temps de le feuilleter assez pour vous en parler en profondeur, mais je vous le recommande quand même parce qu'à l'époque il avait assez attisé ma curiosité pour que je l'offre à ma sœur. Il s'agit de l'anthologie de poésie « Je transporte des explosifs et on les appelle des mots ». Il réunit des textes de poétesses féministes nord-américaines de 1969 à nos jours. La première moitié du livre est un essai rédigé par Jeanne Clausen et qui analyse comment la création poétique a influencé ou influence toujours le militantisme de ces poétesses et de manière plus large les mouvements féministes aux États-Unis. La deuxième partie du livre réunit donc les textes de 24 poétesses dans leur langue originale, ainsi qu'une traduction en français. De quoi nourrir vos réflexions autour du constant va-et-vient entre les mots, l'art et le politique. S'il y a bien un genre littéraire qui ne me déçoit jamais, et je suis bien consciente qu'il ne faut jamais dire jamais, donc c'est pour dire... C'est bien le conte et les nouvelles. Ça doit sûrement avoir un lien avec le fait de raconter une histoire. Je vous en parlais dans l'un des book clubs, j'ai une relation très particulière avec le récit, avec l'acte de raconter. J'aime qu'on me raconte, j'aime les formulettes des débuts de contes, j'aime les récits du bout du monde, les histoires d'empereurs, d'aventurières, ou même les histoires plus ordinaires. J'aime les chutes, les morales, les fins cocasses, abruptes ou étonnantes. Bref, j'aime les contes. tellement qu'à mon grand âge, je me surprends encore à me balader dans la section enfants de ma bibliothèque juste pour en dénicher de nouveaux. Tellement qu'à une époque, j'en avais mémorisé des dizaines et des dizaines pour pouvoir les raconter à mes futurs enfants. Et je pourrais vous citer mille et un ouvrages. Bon d'accord, peut-être pas autant, mais beaucoup. Et celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un recueil que j'avais laissé de côté et presque perdu dans mes étagères. Il s'agit des Contes d'Eva Luna, d'Isabelle Allende. On dit de cette autrice qu'elle est la Scheherazade latino-américaine. Alors, on ne la compare pas à ce personnage mythique des Mille et Une Nuits par exotisation, mais plutôt parce que, comme Scheherazade, Eva Luna raconte à un homme des histoires inédites. Comme pour les Mille et Une Nuits, les Contes d'Eva Luna sont une mise en abîme du récit. On lit une histoire dans laquelle un personnage raconte une histoire. Et je trouve ce procédé d'écriture simplement fascinant. Je dois vous avouer que ce livre est un recueil de nouvelles plutôt que de contes, car il est frappant de réalisme et met en scène des femmes aux vies plus ou moins ordinaires. Une mère, une prostituée, une fillette, une amante, dans une Amérique latine qui est traversée par différentes époques marquantes de son histoire avec un grand H. On y retrouve des récits de vengeance, d'amour, de fatalité, de passion, d'abandon, de voyage, toujours avec un thème central, l'amour d'une femme ou l'amour pour une femme. La plume d'Isabelle Allende est puissante parce qu'elle est capable de nous transporter en quelques pages seulement d'un univers à un autre, d'une époque à une autre. Et surtout, elle est capable de nous narrer une grande période de la vie de ces personnages, voire toute leur vie en fait, sans que cela ne semble ni trop long ou trop court. D'ailleurs, j'ai lu quelque part sur Internet que son écriture rappelle celle du talentueux Gabriel Garcia Marquez et son roman « Cent ans de solitude ». Je ne saurais pas vous dire encore si c'est vrai ou pas. Je l'ai dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Alors en attendant de retrouver le goût et le temps de me lancer dans ce long roman, ou dans n'importe quel autre roman d'ailleurs, je continue de picorer mes petites lectures à emporter. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Book Club. Si vous avez déjà lu ces livres, ou que je vous ai donné envie de les lire, rejoignez la conversation sur Instagram à la Zone Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, mon journal de bord, pour notamment en savoir plus sur moi et mes projets, ce que j'apprends chaque jour sur la créativité, et avoir d'autres recommandations culturelles inédites. Le lien est dans les notes de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous et faites-moi part de vos plus belles lectures. Je suis toujours à la recherche de nouveaux mondes à découvrir. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.